Vous écoutez
RMC.
RMC, la boîte à souvenirs.
Sarah Pitkowski.
Bonjour, je m'appelle Sarah Pitkowski, j'ai 44 ans, je suis une ancienne joueuse professionnelle de tennis et j'ai été parmi les 30 meilleures joueuses du monde. Et ensemble, nous allons ouvrir ma boîte à souvenirs.
RMC,
la boîte à souvenirs.
Bienvenue à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de la boîte à souvenirs sur RMC, votre nouvelle émission durant les fêtes de Noël avec les membres de la Dream Team. De 20h à 21h, aujourd'hui, Sarah Pitkowski est avec nous. Salut Sarah.
Salut JC.
Durant une heure, nous allons ouvrir ensemble ta boîte à souvenirs, se rappeler quelle championne tu as été, quelle femme tu es devenue à la radio aussi, les grands moments, les cicatrices, le milieu dans lequel tu as évolué. Des surprises aussi à prévoir dans cette émission. Ton boulot est très simple. Face à toi, tu as une boîte, plusieurs papiers glissés à l'intérieur. Au fil de notre discussion, tu vas pouvoir les tirer à ta guise. Dessus, un mot, une date, un moment, évidemment, que tu vas nous raconter. Nous ouvrirons un tiroir de ta carrière. Comment tu te sens avant le lancement de cette émission ?
Un peu stressée parce qu'il y a forcément de l'émotion. Et puis, est-ce que les souvenirs sont aussi frais que je peux encore l'imaginer ? Parce qu'avec les années, parfois... Est-ce qu'on embellit certains souvenirs ou est-ce qu'on les accentue, je me demande.
En tout cas, sache que je connais tout par cœur sur toi.
Ah bon ?
Donc si tu te trompes, presque. En tout cas, si tu te trompes, attention, je serai là pour rectifier notamment les dates. On va débuter avec le premier papier, tu peux...
Je tire de ma main innocente
exactement.
Le premier papier.
Est-ce que tu as de la chance sur le premier papier ? On verra ça dans quelques instants.
Oula, 24 mai 93.
24 mai 93, est-ce que cette date te dit quelque chose ? Visiblement non.
Si, parce que mai c'est Roland-Garros, c'est 93, je pense que ça devrait être le premier.
Tu as 18 ans, c'est ton premier Roland-Garros, premier tour face à Anke Huber.
Ah oui.
Ouais, c'est ton premier tour face à cette joueuse allemande. Avant de te laisser peut-être nous raconter tes souvenirs sur ce match, on va écouter Jean-Paul Loth, très connu sur cette rencontre. Tu affrontes à ce moment-là, à Roland-Garros, Anke Huber.
Oui, Anke Huber, tête de série numéro 6 dans ce tournoi féminin. Bien sûr, elle pourrait très bien, cette année, Jean-Paul, réaliser la performance et pourquoi pas arriver en demi-finale ou en finale dans ce tournoi. Elle domine assez nettement la petite Sarah Pitkowski, elle a 20 ans, Sarah.
Oui. Il y a là une partie difficile pour Sarah Pitkowski qui est ravissante, qui est vive, mais qui fait encore un petit peu poids plume par rapport à Anke Huber, non pas pour ce qui est du poids, mais du poids du jeu surtout. Cinquième mondial, Anke Huber, dans un tableau féminin qui pour l'instant n'a pas perdu la moindre tête de série, ce qui peut juste établir. Passing shot superbe de revers. De la part de Sarah, qui se bagarre, et c'est une vraie battante. Hein. C'est une jeune femme qui ne lâche aucun point, et qui, en tous les cas, ne s'avoue jamais battue, même contre la cinquième tête de série.
Tu as 18 ans, et pourtant, Jean-Paul Loth t'a parfaitement résumé, déjà.
Oui.
Tu ne lâches rien, et tu ne vas rien lâcher.
Oui, parce qu'il me connaît un petit peu, en fait. Il était très proche de mon entraîneur de l'époque. Ils échangeaient beaucoup, donc je pense qu'il connaissait un petit peu mon caractère, et c'est vrai que c'était mon premier Roland. On était sur le court numéro 1, qui n'existe plus dorénavant à Roland-Garros, ce court en rond là. Et c'était rigolo parce que la préparation du match, j'étais plus concentrée à savoir la tenue que j'allais porter, comment j'allais être coiffée, parce que je savais que le court allait être télévisé. Et à cette époque, l'image que moi j'avais du tennis, elle était incarnée par Monica Seles, qui prenait toujours très soin de la manière dont elle rentrait sur le court. J'ai le souvenir que j'étais allée au salon de coiffure avant pour me faire accrocher mes cheveux qui étaient longs à l'époque pour rentrer sur le court, parce que c'est comme quand on rentre dans une scène, en fait, sur scène. Donc en fait, le stress, il était plus positionné sur l'image, parce que d'ailleurs, il ne fallait pas que je regarde l'adversaire en face. C'était Anke Huber, c'était ce qui se faisait de mieux avec Steffi Graf à l'époque, hein, les deux meilleures allemandes.
C'était ton premier grand rendez-vous, évidemment. Ça se passe à Roland-Garros, c'est télévisé, comme tu le dis. Est-ce que tu te souviens un petit peu de ton match et de ta performance ? Tu perds en 2-7, et pour le coup, tu perds plutôt bien en 2-7, parce que c'est juste 7-6, 6-3.
Oui, je me souvenais d'avoir fait un match plutôt serré, mais je me bagarrais, parce qu'en fait, c'était ce que je savais le mieux faire, en fait. Donc, je me bagarrais avec mes armes, qui était pas grande, mais quand Jean-Paul Lotte disait poids plume, ouais, je faisais 1m60, je devais faire, allez, si je faisais 50 kilos, en face, il y avait quand même un autre gabarit, quoi. Je pense que si elle me rendait 15 à 20 kilos, pas loin, facile, et Anke Huber était une joueuse puissante, mais jusque-là, depuis les dizaines d'années où je joue au tennis, j'avais souvent un déficit de puissance. Donc, il me restait à m'accrocher à ma raquette et courir et de se dire qu'à force d'acharnement, on pouvait renverser des situations.
Ton premier grand rendez-vous, c'est celui-ci. Ton premier grand rendez-vous médiatique également, car après, tu vas rencontrer Monsieur Nelson Montfort. On va écouter ta petite interview de l'époque après cette rencontre.
Oui Pierre, juste à la sortie de ce cours 1 où Sarah vient donc de terminer son match, alors Sarah envoie ce petit visage un peu triste mais qui est éclairé d'un sourire qui a quelques regrets, vous nous le disiez à l'instant hors antenne.
Oui, disons que j'ai quelques regrets, j'aurais voulu faire beaucoup mieux et gagner plus de jeux, j'ai même essayé pareil, je pensais, j'aurais voulu une victoire mais bon je crois que c'est Anke Huber et qu'il aurait fallu que je joue beaucoup mieux pour la battre aujourd'hui.
On va tout de même être content et fier du côté de Lille.
C'est sûr, oui, disons que j'ai fait un bon Roland-Garros et j'espère que ça va m'aider pour la suite.
Merci beaucoup, Sarah Pitkovski.
Tu as envie de lui dire quoi à cette petite fille qui répond à Nelson Montfort?
Ah bah elle vient du Nord. Hein. On voit dans les mots que j'utilise, il y a le petit mot « que » qui était à chaque fin de phrase. Et on voit que j'avais encore des consonances des gens du Nord qui parlent. Quoi. Et c'est, voilà, cette déception, elle arrivait souvent parce que j'étais prise toujours par les émotions à la fin du match. Voilà, c'était devant la caméra, donc forcément je dis que j'aurais voulu faire mieux, mais j'étais impressionnée et en même temps je pense que j'avais quand même quelques espoirs qui ont été quand même un peu vite douchés, même si le score était serré. Je me souviens que j'étais toujours prise à la gorge parce que ça jouait vite, quoi, plus vite que ce que j'avais l'habitude de jouer en rythme. Donc je suis vite montée dans les tours sur le plan cardiaque et quand on est dépassé par la vitesse de jeu, le cerveau réfléchit moins vite. Donc en fait, on réagit plus qu'on agit.
24 mai 1993, une première date forte. Je te propose de tirer un nouveau papier pour évidemment continuer cette boîte à souvenirs.
Ah, on donne les marques?
Oui, c'est mieux parce qu'on n'est pas télévisé, c'est à la radio.
C'est donc, du Guronzan.
Guronzan.
Je crois, tu sais quoi? Je me demande si c'est pas sur les listes dopage, ça.
D'accord.
Ouais,
tu veux qu'on le retire? Tu veux
non,
qu'on...
non, non, c'est bon. Parce que ça l'était pas à l'époque, j'en suis sûre.
Alors, pourquoi le papier Guronzan? Je remets dans son contexte. Mm-hmm. Quart de finale de la Coupe Davis 1998.
Fed Cup.
Belgique-France, ouais. Évidemment. Fed Cup. Et là, avant d'en venir au Guronzan, parce qu'évidemment, il faut amorcer pour arriver à cette histoire, Yannick Noah t'appelle.
Oui.
Et il t'appelle pour participer, non pas juste pour être dans l'équipe, mais pour être bien plus que ça.
Oui. Je suis sélectionnée en Fed Cup parce que je crois que Marie Pierce, à l'époque, décline la sélection. On était nombreuses, hein. Je crois qu'à l'époque, je me demande si on n'est peut-être pas une dizaine de Françaises dans le top 50. Donc, autant dire que les places étaient chères. Et donc, on appelle mon entraîneur pour me dire que j'étais sélectionnée. Donc, je me retrouve au stage.
Tu te retrouves au stage
de préparation.
De préparation. Mais évidemment, l'histoire ne s'arrête pas là. Parce que tu es tranquillement dans ta chambre à l'hôtel. Et là, Yannick Noah, le capitaine de l'époque de la Fed Cup, t'appelle.
Oui. Je ne sais plus si on est le mercredi ou le jeudi. Mercredi soir ou jeudi soir. Et il m'appelle dans ma chambre et il me dit, voilà, je t'attends, on est à Gand, en Belgique, il me dit, je t'attends au bar de l'hôtel. Et donc moi, je dis, oh là là, j'ai dû faire un truc qui allait pas, je me demandais ce qui se passait. Donc je m'assieds au bar à côté de lui, il me dit, voilà, tu vas jouer. Et je lui réponds, je vais jouer à quoi? il me dit, tu vas jouer en simple. Et là, je lui réponds, non, c'était pas prévu. Dans mon esprit, je suis toujours très. J'aime les hiérarchies. Enfin, j'aime la hiérarchie me rassure. C'est-à-dire qu'il y a une numéro 1, il y a une numéro 2. Moi, j'étais sparring partner. Voilà. J'étais la numéro 4 de l'équipe. J'étais pas censée jouer en simple. J'étais là pour venir faire les matchs d'entraînement face aux filles, faire partie de l'équipe, les encourager. Mais c'était pas prévu que je joue le simple. Et je lui dis, écoute, non, je... non, c'est pas prévu. Je... Voilà. Et je remonte dans ma chambre. Et là, il me rappelle et il me dit, non, mais je plaisante pas, tu vas jouer en simple. Et là, ça a été la panique à bord. Parce que c'était pas dans mon esprit très pragmatique, c'était pas prévu.
Alors, ce n'était pas prévu, et pourtant, toute la semaine, il choisit de te sélectionner, Yannick Noah, parce que tu es très forte.
Bah parce que, en fait, comme j'ai rien à perdre, j'ai dû battre toutes les filles à l'entraînement, en faisant des sets d'entraînement. Tu vois, le truc où, quand t'as la pression, t'es un peu stressé, finalement, tu joues pas ton meilleur tennis, et puis celle qui est là, tu vois, la sparring partner. C'est arrivé à plein d'autres avant et après, cette histoire. T'es tellement libéré que, finalement, bah, tu joues ton meilleur tennis à l'entraînement, et il y en a un. Yannick, sa stratégie, c'est ça, c'est il a toujours choisi la forme du moment. Donc, bah, ça rentrait dans la case, quoi. Voilà.
Tu es donc très stressé, mais pas uniquement la semaine, également le jour du match, car tu attends forcément dans le vestiaire. Et là, on va écouter Nathalie Tauziat, qui faisait partie de l'aventure avec toi. Il y a des surprises dans cette émission, et Nathalie Tauziat va nous résumer un petit peu dans quel état tu étais pour jouer ton premier match de Fed Cup, quart de finale, avec Yannick Noah sur la chaise.
Elle était un peu atypique, Sarah, quand même. Autant en dehors du court, c'était une fille super, gentille, agréable. Dès qu'elle rentrait sur le court et qu'il fallait jouer en match, c'était une peine, quoi. Bah, déjà, moi, à l'entraînement, elle m'avait collé un 6-0-6-0. Et ensuite, elle avait fait son premier match. Alors, je ne me rappelle plus trop du score, où on en était. Mais donc, elle avait Yannick à côté d'elle. Et je me rappelle, elle nous demandait beaucoup de glace, tout le temps de la glace. Elle se mettait de la glace partout. Alors, on disait, mais qu'est-ce qu'elle a? Elle a chaud, elle était toute rouge. Elle demandait de la glace et elle se mettait de la glace sous ses aisselles. Et puis, même à un moment donné, elle a mis de la glace entre ses cuisses. Alors là, on était mais mort de rire, quoi. Quand c'est Yannick là devant, avec la glace sous les aisselles et entre les cuisses, on se dit, c'est pas possible, quoi.
Tu m'avais caché ça, Sarah.
Oui, mais maintenant qu'elle le dit, oui, c'est vrai. J'étais tellement... le stress, en fait, le stress était tellement important que le cœur battait à la chamade à longueur de temps et je n'arrivais pas à faire redescendre. Donc, je demandais des sacs de glace. Mais je me souviens très bien, il me regardait avec des yeux, dire, mais elle est complètement cintrée, elle. C'est vrai, effectivement, je me souviens de ces poches de glace que je demande et c'était le moyen d'essayer de faire redescendre un peu la température corporelle.
Le thème est posé, venons-en maintenant au Gurons-en, l'avant-match, où tu es totalement, non pas hystérique, mais où tu es prête à jouer.
Oui, un peu surexcité, oui. Ouais.
Raconte-nous.
Et ben, en fait, je suis... donc moi, je joue le deuxième simple le samedi. C'est Sandrine Testu qui est sur le terrain. Et donc, quand tu rentres après, généralement, tu restes pas au bord du court pour pas perdre de l'influx. Enfin, tu peux le perdre ailleurs, l'influx, hein, en l'occurrence. Et donc, j'avais demandé au docteur Montalvan à l'époque, en me disant, j'ai besoin d'un remontant. Donc, il m'avait préparé une bouteille et m'avait mis de la vitamine C et du Gurons-en. Et donc, j'avais bu mon litre d'eau. Et donc, en fait, j'étais surexcitée. J'attendais que ça. Donc, en fait, pour essayer de faire passer un peu cet énervement, je passais mon temps donc, à boire mon litre d'eau et à sauter à la corde dans le vestiaire en attendant de rentrer sur le court. J'ai joué mon match et en rentrant après, bah, elles n'étaient toujours pas passées. Elles faisaient fait du Gurons-en. Donc, c'était difficile de redescendre. Mais voilà, c'était mon produit, mon produit dopant de l'époque. Je dis ça parce qu'il y a beaucoup de caféine dans le Gurons-en. Et c'était aussi psychologique parce que j'en prenais systématiquement un avant de rentrer sur mon match, comme si j'avais peur de m'endormir sur mes lauriers, tu vois. Et c'était un peu ma... On est quand même un peu superstitieux. Et donc, on reproduit toujours la même chose. Et donc, je l'ai fait. Et je l'ai demandé au médecin aussi de l'équipe de France avant de rentrer sur le court.
Autre papier dans la boîte à souvenirs avec toi, Sarah Pitkowski.
Ah oui, Niki Kalaidis.
Niki Kalaidis, c'est qui?
Ça a été un des entraîneurs les plus marquants que j'ai pu avoir. En tout cas, celui qui m'a fait confiance. Quand on parlait tout à l'heure de passer de junior à senior, c'est celui qui a, malgré les réticences d'autres entraîneurs qui voyaient des limites à mon tennis, des limites à mon physique, qui lui a vu a décelé que je pouvais effectivement avoir une carrière. Et donc, il m'a fait confiance et il m'a sélectionnée. J'étais à l'INSEP et il m'a emmenée à Roland-Garros, qui est le centre national d'entraînement, qui représente un peu le passage vers les seniors.
Parce qu'il faut bien dire que forcément, tu as commencé extrêmement jeune ta carrière. Tu as été vite repéré. À 16 ans, tu es parti à l'INSEP. À l'INSEP, tu as quitté ta famille du Nord. Ça a été très compliqué pour toi. Et à l'INSEP, ça a été très, très dur. Ça a été un moment où, tu le dis toi-même, ta croissance s'est arrêtée tellement c'était difficile de rester là, à l'INSEP, pour faire ton métier.
Oui, parce que je sortais d'un cocon familial très protégé et arrivé à l'INSEP, mélangé avec plein de sportifs de toutes disciplines, c'est assez excitant, mais c'est aussi assez... Il y a une forme de pression. Et moi, je ne connaissais pas, sauf la pression que je me mets sur moi-même, mais cet environnement, je ne le connaissais pas. Et j'étais... À 16 ans, moi, j'étais juste en phase de croissance parce que j'avais un retard de croissance. Donc, tout était surveillé à la maison. J'étais suivie par les médecins. Et là, je me retrouve dans le grand bain avec, avec des basketteurs, des volleyeurs, des nageurs, des gymnastes. Et je me retrouve projetée dans un monde que je ne connaissais pas. Et j'étais un peu impressionnée. Effectivement, tout s'est arrêté à ce moment-là. Et effectivement, ça commençait à devenir un déficit un peu problématique au tennis, quoi.
Et donc, deux ans plus tard, un an et demi plus tard, à l'INSEP, on se demande, on se dit qu'on va peut-être te renvoyer chez toi, peut-être ne pas pousser l'expérience trop loin. Et c'est là que Niki Kalaidis entre
absolument,
en scène.
Ouais.
Il veut te récupérer. On va l'écouter, car nous l'avons joint, Niki Kalaidis. Tendez bien l'oreille, parce que...
Il y a un léger accent.
Il y a un léger accent, exactement. Mais vous allez comprendre l'idée générale. Pourquoi il se dit, Sarah, il y a quelque chose à faire avec elle.
Je me rappelle, c'était pendant le mois d'août, on faisait un entraînement avec les autres filles à Roland-Garros. Et puis, il y avait cette petite jeune, là, Rukin, qui regardait les entraînements. Moi, je ne la connaissais pas du tout. Et je tourne et je lui dis, mais... Ça te plaît le tennis? Elle me dit, oui, monsieur, j'attends que je revienne à Roland-Garros, être intégré pour être entraîné par vous. Ça m'a étonné qu'elle dise une chose pareille. Et ensuite, je me suis renseigné que c'était une jeune qui jouait à l'INSEP et qu'éventuellement, elle viendrait peut-être à Roland. Pendant les nationaux qui ont suivi ça, j'ai été la voir jouer. Et là, je vis les qualités, elle se battait, elle l'abandonnait jamais. Et puis, elle avait un jeu que je voyais qui pouvait évoluer de manière très intéressante. Et puis, elle avait un bon physique sur le terrain, une présence. Elle courait partout, elle n'était rien. Donc, je me suis dit que, voilà, impossible, une excellente joueuse. J'ai été trouvé le DTN de l'époque, ce François Joffé. On parlait des possibles joueuses à sélectionner. Et puis, bon, voilà, moi, j'ai dit, écoute, moi, je veux jouer ici qui jouait, Sarapitovski. Je dis, vraiment, me plaît beaucoup. Je dis. Alors, il a rigolé. Et il me dit, écoute, s'il y a de la place dans ton groupe, ben avec plaisir, tu fais comme tu veux. Moi, je voyais les possibilités qu'elle avait, mais je voyais aussi les problèmes dans sa manière de jouer, que ce soit technique ou tactique, qu'il y avait, mais je voyais ce qu'elle pouvait faire.
Il voyait le potentiel, mais il y avait beaucoup de choses à changer, et notamment revoir tout ton tennis. Il t'a fait changer ton tennis, quand même.
En fait, j'avais un tennis qui ne me permettait pas de prendre la balle plus tôt. Voilà, de pouvoir jouer face à des joueuses plus puissantes, donc il fallait trouver un moyen de contrer cette puissance que moi j'avais pas, ce déficit. Et il m'a fait rechanger toute ma technique, donc j'ai 17 ans et on a détricoté tout le tennis et je fais rarement confiance
aux entraîneurs.
vraiment,
on le verra plus tard, voilà. Ne t'inquiète pas,
je fais rarement confiance aux entraîneurs et il a dû trouver les mots pour m'expliquer de manière concrète, pragmatique, compréhensible que si je continuais à frapper la balle de cette manière-là, avec cette technique, j'allais arriver à un moment où j'allais bloquer. Il a dû trouver les mots, ce qui fait que j'ai accepté de baisser les armes et de me dire, on détricote tout, donc le service, le coup droit, le revers, le jeu de jambes, le service, la volée, tout. On a tout remis à plat, comme au début. Et il y avait une phrase, il me disait, faisait ma petite Sarah avec son accent. tu frappes la balle comme si c'était une tomate. Donc il fallait que je centre ma balle, il fallait pas que je frappe pour trouver, parce que si je frappais trop fort, la tomate elle allait exploser. Donc il me dit, regarde la balle, c'est comme une tomate. Il me disait toujours avec son accent, il est d'origine grecque. Et au-delà de ça, il m'a appris le tennis, mais il m'a appris, on communiquait en utilisant les philosophes énormément. Et il avait su capter mon attention avec ça. J'aimais réfléchir sur la vie. Et donc, il me faisait lire Platon, par exemple. Il me faisait lire Descartes. Et j'adorais, je me souviens encore de ces phrases qui me permettaient de m'accrocher à quelque chose et qui étaient notre langage à nous deux.
Restez bien avec nous, la boîte à souvenirs. Ça continue dans quelques instants avec Sarah Pitkowski. À tout de suite sur RMC.
RMC, 20h-21h.
La boîte à souvenirs.
De retour dans la boîte à souvenirs avec Sarah Pitkowski. Sarah, tu peux tirer un nouveau papier, on continue.
Une semaine. Alors là, je ne sais pas de quoi il retourne.
Je suis venu te dire.
Une semaine pour tout oublier. Une semaine pour passer l'éponge. Oui. On est en août 2001 et tu prends la décision d'arrêter ta carrière. Une décision que tu prends à 26 ans. 26 ans d'arrêter ta carrière.
Ça peut paraître tôt, mais quand on a fait 16 ans, 10 ans, 10 ans de voyage, 10 ans de haut niveau, pour moi, c'était déjà, c'était peut-être multiplié par 2,5, c'était déjà énorme. Enfin, j'étais épuisée, fatiguée émotionnellement de ce circuit. Voilà. Et donc, c'est maintenant où je me le dis, je dis oui, c'est quand même vachement tôt, mais à l'époque, c'était comme une sorte de délivrance. Dire ça y est, je vais pouvoir passer à autre chose.
Tu vas pouvoir passer à autre chose. C'est vrai que, pour donner un exemple de la Dream Team, Denis Charvet a eu beaucoup de mal à son après-carrière, à oublier le joueur qu'il a été, à tuer même le joueur qu'il a été. Et pourtant, toi, ça s'est extrêmement bien passé. Ça s'est passé en une semaine. À partir du moment où tu as dit « j'arrête », c'était terminé. On met la housse dans la raquette. Tu t'en souviens de ça ?
Oui, je m'en souviens très bien. Parce qu'en fait, à la différence, c'est que le tennis, cette carrière de tennis, était un moyen de survivre, véritablement le mot, et pas trop fort. C'était je survivais sur le circuit, c'était une souffrance. Et donc, à partir du moment où je me dis que j'arrête, je passe de survie à vivre, et non pas l'inverse, en fait. Beaucoup de sportifs ont vécu, et à partir du moment où ils arrêtent le sport de haut niveau, cette forme d'admiration qu'on peut avoir des sportifs, ils survivent. Et moi, en fait, le mécanisme mental est totalement inversé. Donc, en fait, cette survie, elle arrive. Et là, enfin, je peux vivre. Donc, une semaine, je mets la raquette dans la housse. Je me souviens très bien. Je me regarde dans la glace et je me dis, ça y est, je suis prête. Mais en fait, c'était je suis prête à vivre. Enfin vivre. Donc, en fait, c'est pour ça que ça a été une forme de... Alors, c'est pas évident, hein, mais en tout cas, moi, ça a été une forme de ça y est, je vais pouvoir respirer, je vais pouvoir vivre. Donc, c'est pour ça que ça s'est... Enfin, disons que la fameuse petite mort, moi, ça a été la petite vie, en fait, tu vois. L'inverse, même si le psychologue qui me suivait à l'époque me disait « Faites attention, Sarah ». Elle me disait « Fais attention, Sarah, il faut bien écrire la dernière page de son livre. Prends le temps de l'écrire. » Parce que c'est la dernière page, il faut être capable de bien la refermer pour ouvrir une autre page. Et en fait, moi, j'avais tellement hâte d'ouvrir la deuxième. Peut-être que même la première, elle n'a jamais été ouverte. Donc, en fait, ça s'est bien passé parce que ma vie de sportive, elle était peut-être différente que d'autres. En tout cas, mon chemin de vie était différent.
Parce que ton rapport au tennis est très compliqué à comprendre. Oui. On verra ça dans quelques instants dans un autre papier de la boîte à souvenirs. Mais sur cette semaine, pour tout oublier, cette semaine de fin de carrière, on a interrogé quelqu'un. Je te propose de l'écouter. Tu vas nous dire si tu le reconnais.
Moi, je me souviens... je n'ai pas souvent accompagné en tournoi parce que c'était compliqué. Souvent, les gens m'ont dit « Mais pourquoi tu ne l'as pas entraîné ?» Je pense que ça a été la pire des choses à faire entre nous. Je l'ai accompagné une fois, c'était en fin d'été, sur un $25,000 en Allemagne, et elle perd lamentablement, elle y est plus, quoi. Elle est en train de redescendre au classement, elle a son épaule qui l'a fait énormément souffrir, donc elle est de moins en moins au niveau. Et là, elle perd son match, elle me dit, de toute façon, je le sais, c'est la fin. et elle va au qualif de l'US Open, elle perd contre une fille contre qui elle perdait jamais, et là elle dit bah, c'est bon, c'est stop quoi. Donc là elle est capable en, comme tu dis, en une semaine de prendre la décision. Souvent on te dit que c'est une petite mort, etc. Mais elle, tout de suite, elle tourne la page et elle s'est relancée directement sur des nouveaux défis. Et c'est là où elle est assez impressionnante. Ouais.
Tu l'as reconnue ?
Oui, c'est mon mari. Donc oui, c'est... Je ne savais pas s'il pensait la même chose que moi, en fait. Mais force est de constater que, comme tu me poses la question avant, c'était une souffrance pour moi, mais pour tous les gens qui m'entourent. C'était terrible.
Pourquoi t'es émue là, Sarah ?
Parce que la souffrance que j'ai vécue, malheureusement, les gens autour de moi l'ont vécue, alors que de vivre de faire du haut niveau, c'est extraordinaire. On vit des expériences fantastiques, on voyage, les émotions, c'est des émotions qu'on ne vit pas dans la vie quotidienne. Et en fait, malheureusement, à travers ma carrière, ils n'ont pas vécu ces choses agréables. Ils ont forcément vécu la souffrance de voir soit Olivier, donc mon conjoint, ou soit mes parents, de se dire mais pourquoi faire du haut niveau si c'est pour souffrir, en fait ? Donc, le sport, c'est aussi un partage. Quand on gagne, quand on perd, on a besoin de le partager avec les gens. Encore plus quand c'est un sport individuel, quand c'est un sport d'équipe, c'est génial, faire la victoire, on la vit ensemble, la défaite, on essaie de revenir ensemble. Mais un sport individuel, tu le vis avec quoi ? Avec ton entourage, ceux qui t'accompagnent dans ta carrière. Et en fait, je n'ai pas su leur faire profiter des... ce n'était que des accumulations de souffrances. Donc voilà.
D'avoir été si jeune, à 26 ans, est-ce que tu as regretté d'avoir mis cette raquette dans la housse si vite, quelque part ? Et est-ce que à 28 ans, 29 ans, 30 ans, tu n'as pas eu l'envie de repartir et de faire un comeback ?
Si, c'est venu. Hein. Alors au début, j'étais très contente. Puis à un moment, j'ai eu envie de revenir juste pour savoir quel rapport j'avais avec le tennis. Est-ce que je pouvais prendre du plaisir en jouant des matchs de tennis ? Et donc j'ai fait des matchs, je jouais en match par équipe, j'ai fait des tournois français. Et je prenais du plaisir dans la bataille. C'est-à-dire que j'avais toujours cette volonté de gagner. Alors, probablement avec des adversaires qui avaient parfois 10 ans de moins que moi, puisque c'était les petites jeunes que je jouais. Et il m'est arrivé, sur certains matchs, de prendre du plaisir dans la bagarre. Qui est la défaite ou la victoire à la fin, peu importe. Mais j'ai trouvé du plaisir au jeu. Parce qu'on dit jouer au tennis, c'est un jeu. Et moi, je ne l'ai jamais abordé comme un jeu. C'est-à-dire que c'est comme une partie d'échec. C'est-à-dire qu'essayer de se jouer de l'adversaire. Et j'ai, l'espace de 2-3 ans, de manière sporadique, avec des matchs, j'ai touché ce qu'était le jeu du tennis que malheureusement, je n'ai pas apprivoisé pendant mes 10 ans de carrière professionnelle. Donc, je me suis dit, et si j'avais pu avoir cet esprit-là quand je jouais, j'aurais été curieuse de savoir...
Si... Jusqu'où ça aurait pu t'emmener ?
Ouais, exactement. Si j'aurais pu repousser un peu plus mes limites, si j'avais pu vivre des... Enfin, si j'avais pu, sur les grands cours, faire d'autres choses, voilà. Et puis, comme je ne suis pas du tout nostalgique, j'ai mis ça de côté, je l'ai gardé. Ça doit être dans un coin de ma tête, quelque part. Puis ça me permet d'adoucir un peu la carrière en me disant, j'aurais pu le vivre différemment.
Autre papier dans la boîte à souvenirs avec Sarah Pitkowski.
Ah, valise de cash.
Budapest, ouais. 1999. Mmh. Tu remportes ton premier tournoi.
Oui.
Tu te souviens face à qui ?
Une Hongroise.
Vu le nom, je ne suis pas sûr.
Ah non, une Espagnole.
Cristina Torrance.
Exactement.
6-2. La dotation de ce tournoi, elle est plutôt pas mal. 142 500 $.
Tout ça ?
Eh oui, tout ça. Et que s'est-il passé alors, Sarah ?
Donc en fait, on me donne dans la petite cahute en bois... Je viens chercher mon prize money, on ne me donne pas un chèque, en fait, on me donne du cash et on me le donne dans un sac. Parce que, donc j'avais les liasses de 100 $ enroulées du papier. Et donc, ça, quand même, 140 000 $, ils sont passés où ceux-là ? Enfin, je me renseigne. Et donc, oui, je me retrouve avec le cash, sauf qu'on est de tournoi en tournoi. Et donc, j'arrive avec mon entraîneur à Roissy, mes parents de Lille viennent nous rejoindre à l'aéroport où on passe une nuit avant de prendre le vol le lendemain et je leur donne le cash. J'avais le petit sac sur mes genoux pendant tout le vol, je gardais ça comme un précieux trésor, ce qu'il était d'ailleurs. Hein. C'était un trésor.
C'est la première fois que tu te baladais avec autant de cash.
C'est la première fois que je me baladais. Mais, et la dernière fois d'ailleurs, je ne me balade pas avec autant de cash. Je ne blanchis pas de l'argent, a priori. Mais donc, ils sont venus chercher cette somme en cash. Et c'était mon premier gros chèque. Mais en cash, c'était impressionnant. Voilà.
Autre papier dans la boîte à souvenirs.
Ouh là là.
Avec Sarah Pitkowski.
Je te déteste.
Je te déteste.
Qu'est-ce que c'est que ça?
Bah, c'est à toi de me le dire. C'est ton émission, c'est ta boîte.
Bah oui, mais alors là, je ne sais pas. Si tu me sors des phrases, comment tu veux que je sache, moi, je te déteste?
Qu'est-ce que tu as pu détester?
Bah, le tennis.
Bah oui, mais je te rappelle que tu as été joueuse de tennis professionnelle quand même.
Oui, oui, je déteste. Je n'aimais pas le tennis.
D'où ça vient cette. Et c'est vrai que parmi les papiers précédents, on a pu déjà deviner une détestation, mais d'où te vient cette détestation du tennis?
Ah, c'était pas tant le tennis que je détestais, c'était la solitude que procurait ce sport, en fait. Voilà. La solitude et en fait cette saloperie de défaite que tu vis toutes les semaines.
Car quand tu n'es pas parmi les 10 meilleurs mondiaux, tu perds forcément toutes les semaines.
Tu perds toutes les semaines. Et alors, quand tu te construis chez les jeunes, je l'ai dit, j'étais championne de France, championne d'Europe junior, individuelle, par équipe. Donc là, tu l'as fini. C'est toi qui la tiens, la coupe, à la fin de la semaine. Mais quand tu bascules sur le circuit professionnel, tu peux être un excellent joueur, tu peux être top 30 mondial, tu peux être top 20 mondial en perdant toutes les semaines, quoi. Et donc, en fait, ce côté, cette défaite, plus la digestion de cette défaite, t'es tout seul. Ça, elle ne dépend que de toi, cette saloperie de défaite, en fait. T'es tout seul, tu la partages avec personne. Et ça, c'était insurmontable. C'était une souffrance que j'arrivais pas, parce que je ne faisais pas la différence entre j'ai perdu un match de tennis et Sarah a perdu, en fait. C'était tout mon être qui avait perdu. J'avais pas juste perdu un match de tennis. J'arrivais pas à dissocier les deux. Donc, en fait, j'étais nulle d'avoir perdu. Donc, c'est lourd, quoi.
En plus, tu disputes ton premier Roland-Garros, on en a parlé en 1993. Ton premier succès, on en parlera, arrive en 97. Pendant quatre ans, c'est une souffrance, le tennis.
Absolument.
C'est une souffrance et nous avons retrouvé une de tes copines, Émilie Loi, qui va nous en parler. Et évidemment, après, j'ai quelques questions parce que tu as développé un certain caractère et des spécificités qui te sont propres. Et forcément, c'est assez étrange d'entendre ça. On écoute d'abord Émilie Loi.
Quand elle perdait, ça prenait des proportions énormes. Moi, j'ai un souvenir qui est assez qui est mémorable. C'est au tournoi de Miami, on partageait la chambre. Et je suis rentrée en milieu d'après-midi dans la chambre. Et là, c'était le noir complet. Elle s'était tout fermée, pas une lumière, rien. Elle était blottie dans son lit, complètement dingue, quoi, d'avoir perdu. Donc elle a un rapport à la défaite, au match, à la compétition, qui m'a toujours marqué, parce que sentiment qu'elle se faisait du mal toute seule, quoi. C'était assez perturbant parce que c'est vrai que c'est prenant forcément la compétition, le tennis. Gagner, c'est génial. Perdre, c'est toujours difficile. Mais c'est vrai que ça prenait des proportions qui me paraissaient démesurées. Et à tel point que je me posais la question vraiment comment elle... Parce que quand elle vivait les victoires, il n'y a pas non plus d'euphorie, quoi. Comme si elle trouvait ça normal alors qu'on peut pas gagner tous les matchs. Après, elle a eu un super niveau en tennis, mais pas non plus un niveau de top 5 mondial qui peut se permettre en fait de jamais accepter la défaite. Donc c'était assez c'est un rapport à la compétition assez étonnant. À mon avis, c'est pas non plus un hasard sur le fait qu'elle ait arrêté relativement tôt, parce que ça prenait tellement de place nerveusement, ça devait être tellement prenant, usant, que son arrêt assez jeune et toutefois assez logique.
Même la victoire n'était pas forcément magnifique, incroyable. Tu ne montais pas dans les tours parce que tu avais gagné.
Non,
en revanche,
c'était normal.
Quand tu perdais, c'était très compliqué. Ah, tu as développé une sorte d'automutilation. On entend en tout cas cette chambre dans le noir, mais pendant ta carrière, tu as fait d'autres choses aussi, car tu supportais pas de perdre.
Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il n'y avait pas de différence entre la défaite, parce que meilleur que soi en face, et j'ai perdu. C'est-à-dire, mon entité entière est mauvaise, j'ai perdu, j'ai pas le droit d'exister en fait. j'ai pas le droit de vivre, j'ai perdu. Et je n'arrivais pas à faire la différence entre les deux. Donc, il y avait cette forme de honte, en fait, de honte de la défaite. Et je me souvenais... Enfin, ces souvenirs-là s'effacent, en fait. J'ai dû les effacer complètement parce que je me souvenais plus qu'on ait partagé avec Émilie au tournoi de Miami la chambre, mais ça se voyait quand je partageais la chambre avec une joueuse, mais quand j'étais toute seule, c'était pareil. Et puis je me mutilais le visage et je ne mangeais pas aussi. C'est-à-dire comme si j'avais pas le droit de vivre tout simplement parce qu'il y avait cette défaite qui était presque honteuse. Donc on comprend que ça, 10 ans de carrière à vivre comme ça, ça vaut, je sais pas. Ouais, ça vaut ça vaut 20 ans, 30 ans de carrière, quoi. Émotionnellement, psychiquement, enfin, c'est épuisant.
Tu as deux enfants, dont oui. L'aîné s'appelle Hugo.
Oui.
Il a envie de devenir golfeur professionnel. Mmh. Il est comme toi ?
Il est un peu comme moi. Il est un peu comme moi.
On va écouter ton mari, justement, oh là là. Sur le parallèle entre Hugo, ton fils aîné, et toi, Sarah Pitkowski, joueuse professionnelle.
Moi, je les appelle un peu, c'est des extrémistes, en fait. C'est-à-dire que l'image que je donne, Sarah était un peu comme ça quand elle jouait, et Hugo, mon fils, est là-dedans. C'est-à-dire que au golf, tu le poses à 8h du matin et tu le reprends à 22h, et il peut être toujours sur le même exercice. Donc, ils ont cette capacité à jamais rien lâcher, avec, par contre, des hauts et des bas au niveau des émotions. C'est-à-dire, de 8h à 22h, il va passer par tous les états, euphorique, catastrophique, nerveux. Voilà, c'est le yo-yo émotionnel sans arrêt. Et en fait, ils en deviennent un peu épuisants pour les gens qui sont à côté, parce que au bout d'un moment, tu sais plus comment gérer. Mais en même temps, ce que me dit Sarah tout le temps, elle me dit, t'inquiète pas, il va retrouver des ressources par lui-même. Donc finalement, elle fonctionne un peu comme ça. Quand tu la vois très très bas, tu te dis bon bah là, elle va jamais se relever. Et puis elle a son process à elle qui fait que le lendemain ça va mieux et elle repart quoi. Donc c'est assez. Et Hugo est exactement là-dedans.
Mécanismes mentaux assez un peu autodestructeur. Mais il a le même mécanisme quand il finit une compétition de golf. Son père essaie de lui expliquer techniquement ce qu'il a marqué et il répond « Non, mais je suis nul. Non, mais je suis nul, c'est nul. » Et je dis toujours « Laisse-le. » De toute manière, là, il parle sous le coup de l'émotion. Donc, en fait, c'est les émotions qui prennent le dessus sur l'intellect. Et puis après, quand ça redescend, quand l'émotion est redescendue, on peut avoir une analyse intellectuelle.
Tu peux lui parler, toi ? Toi qui connais et qui comprends ce mécanisme ?
Non, mais je sais quand lui parler. C'est-à-dire que je sais qu'il faut lui fiche la paix. Et ça ne sert à rien, en fait, à chaud. Et puis après, il faut laisser passer. Et puis après, on est capable d'entendre les choses qui ont été bien faites, les choses qui ont été mal faites, les choses auxquelles il faut progresser, les choses sur lesquelles il faut retravailler. Là, on est capable de parler comme un être humain. Avant, c'est comme un bébé. Mon entraîneur de l'époque, Nikki Kelaidis, et c'est comme ça qu'il m'a attirée. Il m'a dit, on a tous un bébé au fond du ventre, et le bébé, par définition, il a des réactions de bébé. Et s'il prend le dessus sur notre intellect, sur notre pragmatisme, eh ben, on ne peut plus fonctionner. Donc il me disait toujours, essaie de calmer ton bébé, dis-lui des choses gentilles à ton bébé pour qu'il évite de pleurer et qu'il prenne le dessus. Et j'ai dit les mêmes choses à mon fils. Donc, on parle un peu la même langue. Après, comme je lui dis, il faut qu'il en fasse une force. C'est-à-dire que moi, j'en avais pas conscience de ce mécanisme-là. J'en ai pris conscience après. Donc, l'idée, c'est de pouvoir l'aider dans son mécanisme et que celui-là soit le moins polluant possible et que ça lui permette de performer. En tout cas, de prendre une expérience, enfin, de lui faire partager mon expérience pour que ça puisse limiter le maximum cette émotion qui prend le dessus.
Autre papier dans la boîte à souvenirs avec Sarah Pitkowski.
Ah, oui. Pardon, Arnaud.
Budapest 97, ton entraîneur s'appelle Arnaud Casagrande.
Oui.
Et que se passe-t-il lors de ce Budapest 97 ?
Alors, je ne sais plus à quel tour je suis, mais donc je suis dans un état d'énervement assez intense et je crois que donc sur ce match-là, je dois être en train de perdre ou en tout cas, ça ne doit pas se dérouler comme je veux et je dois passer mes nerfs sur mon entraîneur qui est au bord du court. Donc, je dois lui dire que ce qu'il me dit, c'est complètement nul, qu'il ne comprend rien. Je reste polie, hein, parce que j'ai dû en dire des choses. Et je pense que je finis par gagner ce match-là, je crois bien. Mais comme il arrive qu'au bout d'un moment, quand je passe mes nerfs sur les entraîneurs, au bout d'un moment, ils partent de la tribune, parce que ça ne sert à rien. Ils ne m'apportent rien, et puis ils ne sont pas des punching balls dans l'absolu. Donc, il est parti. Et puis, je sors du match que je pense avoir gagné. Je prends la navette pour rentrer à l'hôtel et j'essaie de l'appeler dans sa chambre. Et là, la réception me dit, bah non, monsieur Casagrande, il a fait le check-out. Il a pris son avion, il est rentré à Paris directement. Je crois que je l'avais tellement excédé qu'il a jeté l'éponge. Mais je ne crois pas qu'on ait arrêté de travailler après ce tournoi-là.
Non, mais on va quand même écouter Arnaud Casagrande sur cette histoire.
Sarah avait elle est en train de jouer, je crois qu'elle est en quart de finale ou en demi-finale, je ne me souviens plus. Elle joue contre Julie Allard et elle mène, je crois, 7, 6-1 et 5-1, enfin assez facilement. Et elle perd un jeu, elle perd un deuxième jeu, un troisième, et puis ça devient un petit peu plus tendu, enfin bon, normal. Les émotions sont un petit peu fleur de peau et Sarah de temps en temps avait des sauts d'humeur et donc elle commence à me regarder, donc je lui dis une chose qu'il faut surtout pas dire. Je lui dis bah, écoute, monte à la volée, enfin voilà, j'essaie de lui dire une petite chose en disant, écoute, bon, ben voilà, il fallait que je dise quelque chose. Donc, je lui dis, ben écoute, monte à la volée. Et évidemment, le point d'après, elle monte à la volée, elle se fait passer. Et là, bon, ben, c'est des mots qui sont sortis. Et je suis sorti du cours. Enfin, j'étais dans les tribunes. Je suis descendu les tribunes. Je suis rentré à mon hôtel. Et j'ai pris le premier avion pour Paris.
Difficile hein, parfois d'entraîner Sarah Pitkowski. Ah,
c'est terrible. C'est pas une excuse, mais on comprend en fait, comme c'était un état de souffrance et de frustration telle qu'en fait, je cherchais une réponse autour de moi et pour peu qu'elle soit pas juste comme il faut, tu vois, le truc monte au filet, je le fais passer, mais c'était la même chose. Il m'aurait dit joue sur son verre et je me serais fait j'aurais perdu les 3 prochains points en jouant là-dessus, ça aurait été la même chose quoi. Déjà, il est culotté de dire monter au filet, je montais jamais au filet, donc déjà c'était pas super malin hein. C'est quand même pas super malin.
C'est vrai que c'est un conseil pourri, je suis
non
d'accord.
Mais c'est un conseil, me connaissant, c'est déjà un conseil très pourri.
Voilà, la boîte à souvenirs c'est terminé, mais dans quelques instants nous allons sortir de la boîte. À tout de suite sur RMC.
RMC, la boîte à souvenirs.
La sortie de boîte.
Tu vas devoir répondre à des questions de proches qui ont tenu à te poser certaines questions, à toi d'y répondre, de juste dire un mot ou de compléter. On va débuter avec Émilie Loi qui a quelque chose à te demander.
Est-ce que tu es aussi chiante dans ta vie maintenant que lorsque tu étais sur le circuit?
Alors,
tu peux lui régler son compte à Émilie.
Ouais, non mais on est
on
très copines,
on l'aime beaucoup.
Je suis aussi exigeante, ouais. Aussi exigeante et intransigeante malheureusement, et c'est encore une fois les proches qui en pâtissent, mais je m'améliore en vieillissant.
Un auditeur RMC a aussi eu envie de te poser une question. Il s'appelle Yoni, on l'écoute.
Salut Sarah, alors je me posais une question. On connaissait ta hargne sur le terrain à l'époque, c'était vraiment ton trait de caractère, parfois même ta nervosité que tu pouvais laisser ressentir. Et quand on lit tes interviews d'après-carrière, on a l'impression de lire vraiment un poids que tu portais pendant cette carrière avec un certain nombre de sacrifices. Donc je me pose une question, est-ce que tu as réellement apprécié cette vie en tant que joueuse à sa juste valeur ?
Non. Malheureusement, non. J'ai pas apprécié à sa juste valeur les matchs joués sur les grands courts, les jouer les meilleurs mondiaux. Je les ai un peu subis plutôt que je les ai vécus et appréciés. Et c'est vraiment dommage, en fait. C'est vraiment dommage. Ouais.
Une dernière question, celle de ton mari, Olivier Malcor, également coach de tennis. C'est à lui.
Connaissant ton caractère, Sarah, aujourd'hui, de quoi es-tu la plus fière ? Voilà, t'as 44 ans. De quoi es-tu le plus fier dans ta vie de femme, surtout, plutôt que de joueuse, ou mais dans ta vie personnelle, dans ta vie de femme, de quoi es-tu le plus fier?
D'apprécier et de choisir ce que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire que de faire de la radio ou de faire d'événementiel, c'est les métiers que j'aime faire. Donc en fait, j'ai joué au tennis, qui était un métier que j'aimais pas trop faire, et mon après-carrière, j'ai choisi de faire des choses que j'aimais, qui me procuraient des émotions positives, et ça c'est top, quoi. Enfin, c'est ce que cette carrière de tennis m'a permis de faire, de toucher, de faire des choses qui me procurent des émotions et de partager ça avec des gens.
Et voilà. Tu es un exemple de reconversion avec oui. De l'événementiel, avec aussi du travail à la radio avec nous. Et c'est vrai que si tu as considéré que ta carrière n'avait pas été suffisamment bonne, je peux te le dire que ton après-carrière, elle, et je pense que ton mari est d'accord avec moi, elle est très très bonne. Alors c'est très sympa parce qu'on discute, je sais que tu es très ému depuis quelques minutes, Sarah, mais quand on sort de boîte, il peut y avoir quelques problèmes. Il peut y avoir par exemple des interrogatoires. On va débuter avec Sarah Pitkowski en face de moi. La joueuse que tu détestais joue. Où est Sarah?
C'est les sœurs Williams, insupportable. Insupportable. Non mais insupportable.
Quel est ton plus grand match?
Je m'en souviens pas, mais peut-être ce match en Fed Cup. Peut-être ce match en Fed Cup, mais pas sur le moment, hein. Quelques années après, ce match où je remets les deux équipes à égalité, donc on est à deux partout. Et là, ouais, c'est après les années, je me dis, j'ai quand même fait quelque chose de grand, quoi.
Avec le maillot de l'équipe de France.
Avec le maillot de l'équipe de France, bah ouais.
Le pire match, en revanche.
Le pire match, c'est celui qu'Olivier parlait, là, contre au fin fond de cette Allemagne, qu'on a 25 000 $ contre une joueuse où je crois que je menais 5-1. Je perds, c'était déplorable. Là, je crois que j'avais touché le fond, mais vraiment le fond, là. Ouais. Je peux même pas te dire contre qui je jouais, parce que de toute manière, ça n'avait pas d'importance, mais c'était tellement imperdable.
Ta meilleure copine sur le circuit?
Ah, c'est une Russe, c'est Anastasia Miskina qui a gagné Roland-Garros. On était très copines, on faisait des doubles ensemble. Je me souviens d'un premier tournoi qu'on a joué ensemble en double, c'était à Palerme. C'était une fille qui était complètement déjantée, m'aimait à des années-lumière, mais on aimait bien papoter ensemble. Et c'était vraiment une fille avec qui j'aimais passer du temps.
Je pensais que c'était Madame Federer que tu avais déjà croisée et rencontrée.
Non. Mirka, non, pas trop.
Non, pas trop. Pourtant, elle a été joueuse de tennis.
Ah oui, absolument. En plus, elle m'a battue. Mais je sais même pas comment.
D'ailleurs, Roger Federer t'a rappelé cette histoire il y a un moment donné, non?
Oui, absolument. Quand je l'ai croisé, on avait fait une conférence de presse ensemble et Mirka m'avait rappelé ce match qu'on avait joué. Ouais. Elle n'était pas avec Roger à l'époque. Hein. C'était à Dubaï, je crois, d'ailleurs.
Le joueur le plus détestable sur le circuit, c'est qui? Ou c'était qui à ton époque?
Il n'y en avait pas beaucoup, mais Marat Safin, il était quand même pas super sympa. Enfin, ça dépend. Si tu mesurais 1m80 et que tu avais une taille mannequin, il était très sympa.
Oui.
Tu vois? Sinon, le reste du monde, il s'en contre-fichait royalement.
Donc, tu es en train de dire qu'il se moquait de toi totalement?
Non, mais tu n'existais pas.
Voilà.
Exactement.
La dernière fois que tu as pleuré, Sarah?
Là. Forcément.
Et l'avant-dernière fois?
La dernière fois, c'était quand Christophe Cessieux m'a fait une surprise pour la dernière des Grandes Gueules. C'était cet été. Il est arrivé du Tour de France. J'étais avec toi, JC?
Exactement.
Ouais, on
était... C'était ta dernière dans les Grandes Gueules?
Exactement, oui. Et ça, je n'avais pas vu venir Christophe. Et effectivement, les émotions sont arrivées d'un coup.
C'était le 28 juillet?
Ouais. Absolument.
On va revivre ce moment avec toi.
C'est la dernière en tant que co-animatrice de cette très belle émission des Grandes Gueules que j'ai partagée avec toi, Christophe. Tu m'as fait une petite place, j'ai essayé de la prendre, on s'est partagé des moments extraordinaires. Mais c'est important de te remercier, Christophe, de remercier les super subs avec qui j'ai partagé ce micro, Jean-Christophe Drouet, avec qui nous avons passé deux
bien,
étés. J'embrasse Louis Amar, qui était aussi à mes côtés. Il y a eu Jean-François Morel, il y a Arnaud Souk, qui était sur la moto pendant tout le Tour de France. Et puis, un grand, grand, grand merci à Pierre Amiche qui était dans mon oreillette. Merci à vous de m'avoir écouté. J'avais passé 2 ans et demi formidables. Et puis, c'est pas terminé. Il reste encore beaucoup de sport sur RMC et surtout beaucoup de tennis.
Tu as fermé le chapitre des Grandes Gueules du sport, mais il y a d'autres livres qui sont en train de s'écrire.
Oui, absolument. Toujours à l'antenne. Et puis, tu es toujours là. Pierre, il est toujours dans mon oreillette, en fait. Tu vois, Christophe est toujours là. Donc, c'est toujours... j'aime cet esprit de bande, en fait, que je n'ai pas eu parce que j'ai fait un sport individuel. Et en fait, je prends énormément de plaisir à le jouer en équipe, en fait. Et je trouve que c'est très enrichissant plutôt que d'être tout seul derrière un filet avec une raquette. C'est beaucoup plus sympa de partager ce que le sport nous fait vivre et nous fait vibrer quand on est nombreux et qu'on peut échanger.
Merci beaucoup, Sarah.
Merci, JC. Merci, Pierrot.
Ce n'est pas encore complètement terminé.
Ah bon?
Tu as bien raison de remercier Pierre Amiche, le producteur, qui a magnifiquement travaillé sur cette émission. Sachez qu'il y aura d'autres membres de la Dream Team qui vont venir se confier, qui vont venir ouvrir eux aussi leur boîte à souvenirs. Vous allez pouvoir retrouver tout ça sur le site d'RMC en podcast. Je te laisse le mot de la fin, Sarah. C'est à toi pour conclure cette émission. Sarah Pitkowski.
Bah, j'espère que vous avez passé un bon moment. En tout cas, moi, ça m'a fait rouvrir effectivement des émotions que j'avais bien enfouies. Mais je suis toujours très, très heureuse d'être autour d'un micro pour pouvoir parler de sport, parce qu'il n'y a vraiment que le sport qui nous apporte des émotions. Et le fait de pouvoir le partager, quelque sport que ce soit, au micro avec toute la bande d'RMC et tous ceux qui nous écoutent, c'est un véritable plaisir tous les jours.
RMC,
la boîte à souvenirs.